Bonjour, ici Marthe Saint-Laurent. Bienvenue à Terre de Femmes. Cette semaine, nous passons une heure complète avec une femme d'inspiration, une femme passionnante et passionnée. Elle est l'auteure du livre Simone, l'Acadienne aux mille passions. Il s'agit de Simone Savoie, avant-gardiste et déterminée. Mais tout de suite avant, nous écoutons Annie Blanchard, Évangeline.
Était dans le ciel, toi dans les bras de Gabriel. Il faisait beau, c'était dimanche. Les cloches allaient bientôt sonner et tu allais te marier dans ta première robe blanche. L'automne était bien commencé, les troupeaux étaient tous rentrés et partis toutes les sarcelles. Le soir au son du violon, les filles et surtout les garçons t'auraient dit que tu étais belle. Évangeline, Évangeline. Mais les Anglais sont arrivés, dans l'église ils ont enfermé tous les hommes de ton village. Avec les enfants qui pleuraient toute la nuit sur le rivage. Au matin, ils ont embarqué Gabriel sur un grand voilier, sans un adieu, sans un sourire. Et toute seule sur le quai, tu as essayé de prier, mais tu n'avais plus rien à dire. Évangeline, Évangeline. Alors pendant plus de 20 ans, tu as recherché ton amant à travers toute l'Amérique, dans les plaines et les vallons. Chaque vent murmurait son nom comme la plus jolie musique. Même si ton cœur était mort, ton amour grandissait plus fort dans le souvenir et l'absence. Il était toutes tes pensées, et chaque jour il fleurissait dans le grand jardin du silence. Évangeline, Évangeline. Tu vécus dans le seul désir de soulager et de guérir ceux qui souffraient plus que toi-même. Tu as pris qu'au bout des chagrins, on trouve toujours un chemin qui mène à celui qui nous aime. Ainsi un dimanche matin, tu entendis dans le lointain les carillons de ton village. Et soudain alors tu compris que tes épreuves étaient finies, ainsi que le très long voyage. Évangélique, Angélina. Devant toi était étendu sur un grabat un inconnu, un vieillard mourant de faiblesse. Dans la lumière du matin, son visage sembla soudain prendre les traits de sa jeunesse. Gabriel mourut dans tes bras et sur sa bouche tu déposas un baiser long comme ta vie. Il faut avoir beaucoup aimé pour pouvoir encore retrouver la force de dire merci. Évangéline, Évangéline. Encore aujourd'hui, des gens qui vivent dans ton pays et qui de ton nom se souviennent. car l'océan parle de toi. Les vents du sud portent ta voix de la forêt jusqu'à la plaine. Ton nom c'est plus que l'Acadie, plus que l'espoir d'une patrie. Ton nom dépasse les frontières. Ton nom c'est le nom de tous ceux qui, malgré qu'ils soient malheureux, croient en l'amour et qui espèrent. Évangeline.
Notre prochaine invitée, Simone Savoie, qui est l'auteur du livre de l'autobiographie Simone l'Acadienne aux mille passions. Alors, c'est une chanson qui est très représentative pour mon invitée. Bonjour, Simone Savoie.
Bonjour, Marc.
Comment vas-tu?
Ça va bien et ça me fait plaisir. Jaser avec toi.
Eh bien, écoute, le plaisir est partagé. Je vais simplement mentionner Simone parce que à ton âge respectable de 82 ans, je te tutoie et je ne veux pas froisser personne. C'est que ça fait 25 ans qu'on se connaît. Et d'ailleurs, je salue tous les gens du Nouveau-Brunswick. J'ai eu la chance d'habiter dans cette superbe province et c'est là qu'on s'est connus. Donc, tu es née en Gaspésie en 38. Tu as déménagé à l'âge de 2 ans à Rogersville, au Nouveau-Brunswick. À l'âge de 7 ans, ta mère est décédée. Et après tes études, tu deviens enseignante. Tu te maries et tu déménages au Manitoba, puis à la Romaine, sur une réserve indienne Innu, sur la côte nord où tu enseignes. Et après, tu reviens à Bagotville, à Bouctouche, puis à Bathurst, au Nouveau-Brunswick, où nous nous sommes connus. Quel beau parcours! Ça te fait quoi, Simone, quand t'entends tout ça?
Oh, la trotteuse!
Alors, Simone, t'es une femme aimante, fière, tu es féministe et engagée. Tu es retraitée et tu as occupé les fonctions de directrice d'un centre de la petite enfance. Évidemment, tu es auteur, comme on a dit un peu plus tôt. Donc, on va commencer avec la femme aimante. Tu es, comme bien des Acadiens, extrêmement, comment je pourrais dire, accueillante. Tu aimes les gens, tu as un grand cœur, tu aimes donner. D'ailleurs, tu as 4 enfants et 9 petits-enfants qui profitent de ta bonté et de ta générosité. Quel est ton apport auprès de tes enfants? Qu'est-ce que tu leur apportes? Qu'est-ce que tu... qui fait en sorte que vous êtes très près les uns des autres?
C'est mon besoin de rassembleur.
Oui.
Rassembleuse, disons. Mm-hmm. Et puis, à chacun d'eux, j'ai eu l'occasion de pouvoir aider les parents lorsqu'ils étaient dans le besoin, mais surtout les derniers, les enfants d'Alain, mon dernier, sa maman a eu, comme tu as vu dans mon livre, elle a eu le cancer, donc je me suis tout de suite organisée pour avoir qu'elle puisse avoir de l'aide pour pas que je perde ma santé.
Mm-hmm. Oui.
Ouais, ouais. Mm-hmm. Donc j'ai un lien très spécial et je dois te dire en passant. Juste une petite anecdote. J'ai un grand garçon qui vient d'avoir 30 ans, un petit garçon qui vient d'avoir 30 ans, et je l'ai appelé. Et puis, à la fin, il m'a dit, 30 ans, là, oui. Je t'aime beaucoup, grand-maman.
Donc, vous êtes toujours très, très près les uns des autres.
Très, très près. Hein? Très près, oui.
Et quand tu... Oui, vas-y.
Oui, j'allais dire que la plus vieille a 31 ans quand même, Sarah Mood.
Ah oui! Mm-hmm. Oui. Et écoute, comment tu réunis tous ces gens-là? Parce que les petits-enfants sont quand même éparpillés, sont un peu partout.
Bien, actuellement,
c'est difficile, oui.
J'ai la chance d'avoir Sarah Maud, la fille de Chantal et de Louis, qui est décidée de revenir à Bathurst après 10 ans. Mm-hmm. Et puis, donc, Chantal et son mari, parce qu'ils sont mariés, mm-hmm. Se sont achetés une maison aux alentours de Bathurst. Et Grégoire, mon petit-fils, qui est ingénieur, a acheté la maison d'une de ses tantes qui est décédée et il a décidé de aussi mettre ses pénates, avoir ses pénates à Petit Rocher.
Mm-hmm.
Et le reste, oh oui, j'en ai un autre. Éric, le garçon de Conrad, habite également à Petit Rocher. Donc, le reste de mes petits-enfants sont encore assez jeunes. Oh non, j'en ai qui sont aux études, c'est vrai.
Oui.
Oui. Oui, c'est vrai. J'en ai deux actuellement qui sont aux études.
Mais ça a toujours été présente, Simone, auprès de tes enfants, puis après auprès de tes petits-enfants. Tu les as gardés beaucoup, tu prenais, t'étais, en fait, tu étais partout. Non seulement tu travaillais à la garderie, les enfants ont toujours été au cœur de ta vie.
Oh, et comment? Oui. Même que les jumeaux, je me suis tellement occupée d'eux,
mm-hmm.
et je dois dire avec tristesse que la maman est décédée.
Oui.
Et puis, maintenant, Alain, mon dernier, a une copine, ils sont mariés également. Et puis, un jour, un des jumeaux, qui s'appelle Philippe, dit à Caroline, il dit, « Une chance qu'on l'a, grand-maman.
» Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'attire tant chez les enfants? Qu'est-ce que tu aimes tant?
Oh, c'est cette beauté intérieure, ce côté naïf, ce côté tellement beau, ils sont tellement francs, ils sont tellement là. Je pense que j'ai pas de mots nécessairement pour expliquer, mais je sais que lorsque je travaillais en garderie, mm-hmm. en service de petite enfance,
oui.
C'était les enfants d'abord. Hein?
Oui.
D'abord les enfants. Les mm-hmm. parents après, ensuite les employés.
Ah oui, vraiment, c'était ça l'ordre.
Ah oui, c'était ça l'ordre. Même que les employés me disaient, « Oh, tu prends la part des enfants. » Oui, mes amis, je prends la part des enfants.
Mais pourquoi c'est comme ça? Est-ce que c'est parce que toi, tu as perdu ta mère très jeune?
Moi, je pense que oui.
Mm-hmm.
Et malgré que de mon naissance à mon âge, que maman est décédée, j'ai été beaucoup aimée. Et j'ai joui d'une mère qui était extraordinaire, toujours de bonne humeur. Comme je dis dans mon livre, elle avait connu la thérapie du jeu.
Oui.
Comme je dis dans mon livre, elle était avant-gardiste. Donc, lorsque j'ai eu ma deuxième mère, j'avais déjà quand même ça au fond de moi.
Mm-hmm.
Ouais.
Et avec ta deuxième mère, ça a été très différent.
À qui le dis-tu? Oh, oh, oh!
Mm.
Mais parce qu'il y avait toujours cette force intérieure-là qui dormait, qui a dormi lorsque j'étais avec la deuxième mère.
Mm.
Et je pense que parce que j'avais ça, ça m'a permis de la regarder comme une personne qui était là pour faire à manger la couture. Je sais qu'elle mérite plus que je dis là, parce qu'elle a été extraordinaire du côté de nos soins d'abord, de base, et surtout très bonne cuisinière, très bonne couturière, très bonne avec mon père.
C'était, donc, c'était des soins de base, rien de plus.
Oui, ça, c'était parfait.
Mm-hmm. Et toi, l'être humain te fascine tellement que tu as fait des diplômes en polarité, en reiki, massage de relaxation, énéagramme et biologie totale. Et même, je pense que tu as pratiqué, tu avais ton bureau chez toi.
C'est-à-dire, non, avec une copine un édifice, oui.
D'accord. Donc, tu continuais à donner. Tu as donné toute ta vie, Simone. C'est ça. Écoute, reste avec nous, Simone. On va aller à la deuxième chanson avec Wilfred Leboutillier, chanson que tu choisis d'ailleurs.
Parce que c'est mon préféré.
C'est ton préféré. Oui, on va parler de ça, que tu es une groupie à la fin. Donc, nous écoutons « Amène-toi chez moi ».
Cœur te fait mal si tu ne sais plus rire, si tu ne sais plus être gay comme autrefois. Si le cirque est parti, si tu n'as pu le suivre, amène-toi chez nous, je t'ouvrirai les bras. Je n'ai rien d'un bouffon qui déclenche les rires, mais peut-être qu'à deux, nous trouverons la joie. Viens, si tu ne peux pas mordre dans la vie qui t'emporte. Parce que c'est la vie qui te mord chaque jour. Si tu ne peux répondre au coup qu'elle te porte, amène-toi chez nous, je serai dans ma cour. Je ne sais pas guérir, je ne sais pas me battre, mais peut-être qu'à quatre, nous trouverons le tout. Qui alimente le creux des ruisseaux. Si les ruisseaux savent trouver la mer, peut-être trouverons-nous la lumière. Si tu cherches à savoir le chemin qu'il faut suivre, si tu cherches à comprendre ce pourquoi tu t'en vas, si tu vois ton bateau voguer à la dérive, amène-toi chez nous, j'aurai du rhum pour toi. Je ne suis pas marin, je vis loin de la rive, mais peut-être cassant, nous trouverons la voie. Viens. Si tu t'interroges sur le secret des choses, si devant l'inconnu tu ne sais que penser, si le nom répond pas aux questions que tu poses, amène-toi chez nous, je saurai t'écouter. La vérité m'échappe, je n'en sais pas grand-chose, mais peut-être qu'à mille, nous saurons la trouver.
Quelle belle chanson entraînante et rythmée pour aller avec toi, Simone Savoie, qui est avec nous avec plaisir aujourd'hui.
Oui.
Alors, Simone, tu es aussi une femme fière. Hein? Tu es aimante et tu es fière. Tu acceptes volontiers les défis, tu y vas. T'es vraiment t'as un parcours inspirant, c'est incroyable. Et quand je t'ai demandé de participer à l'émission, tu m'as dit, ben Marthe, il me semble qu'il y a d'autres femmes qui sont plus, qui ont plus de parcours ou d'expérience que moi. Mais écoute, je regarde la liste, t'as quand même gagné les prix de reconnaissance, prix Alpha de la lieutenant-gouverneur pour ton implication auprès des enfants en tant que militante en 2003. Tu veux nous parler de ça un peu?
Oui.
Alors, vas-y.
Voilà. Mais par contre, je faisais partie de ce comité-là, moi.
Oui.
Avec la lieutenant-gouverneure.
Mm-hmm.
Et je me sentais quelqu'un avec madame la lieutenant-gouverneure. On se rencontrait chez elle, et puis on avait la réunion, puis notre but, c'était de trouver quelqu'un qui avait participé pour la littérature, et c'était soit les bibliothèques, un grand-parent, ou etc., etc. Et moi, lorsque j'ai décidé de laisser, je me suis fait remplacer par une bonne amie qui s'est très impliquée également.
Mm-hmm.
Et puis, lorsqu'elle est allée avec eux, elle a dit, « Hey, si une, il faut qu'on reconnaisse, c'est Simone.
» Bon, ben, t'avais fait ta place.
Ouais. Donc, moi, ne sachant pas, tiens, je reçois une lettre de madame la lieutenant, gouverneur, m'invitant que j'étais reconnue comme la grand-maman
mm-hmm.
en littérature. Puis j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ça. J'étais un peu nerveuse, si je me rappelle bien, parce que je venais de laisser la garderie, puis j'avais comme tout donné à la garderie, là, comme.
Oui. Ben, t'as dirigé, en fait, la garderie pendant 20 ans et tu y as été pendant 23 ans. Ça s'appelait, ouais. Je me souviens, la garderie Bimbo.
Exactement, où ta fille...
Oui, où ma fille est allée. C'est comme ça qu'on s'est connus, d'ailleurs.
Oui, oui, oui.
Et ça a été la première garderie de la région Chaleur. Toi, tu ne fais pas les choses à moitié, hein, Simone. C'est...
je me dois de dire que ce n'est pas à cause de moi que la garderie a été mise sur pied. C'est grâce à une grande dame qui m'a beaucoup aidée de tous les sens. Elle s'appelle Céline Roy. Je lui lève mon chapeau. C'est une personne qui ouvre les portes.
Oui. Mais il faut quand même rentrer. Hein. Toi, tu t'es permise d'y aller.
Oui, oui. Et donc, lorsqu'elle s'est aperçue que j'allais aller ailleurs, parce que moi, je trouvais que j'avais tout donné, là,
mm-hmm.
elle s'est empressée puis me dit, « Non, Simone, tumeur en place. Moi, j'ai fait le déblayage. Toi, tu as toutes les qualités qu'il faut pour continuer.
Mm-hmm.
OK, merci.
C'est ça qui est formidable, c'est que c'est dans ce sens-là que tu es tellement inspirant, c'est que toi, tu y vas, tu t'accroches pas à tes peurs, tu te dis pas « je suis pas capable », même non. Si tu le penses un peu comme nous toutes et nous tous, toi, tu y vas quand même. Tu sais, y a des gens qui arrêtent, toi, tu dis ben, « peut-être que je suis pas capable », mais en même temps, si on me l'a demandé, « allez hop, j'y vais ».
Oui, et j'étais le genre, je me rappelle, là, j'étais à la garderie, je disais « sors de ton zone de confort, Simone ».
Ah, où tu
sors
parlais?
De ton zone de confort. Et puis je m'apercevais que, ça fonctionnait.
Ouais.
Oh là là. Puis moi, j'avais un côté que je me sentais coupable. Et je me suis aperçue qu'à la garderie, j'ai grandi, moi, avec ces enfants-là. J'ai appris d'eux.
Oui.
J'ai beaucoup appris. Et j'ai beaucoup appris des techniques, mais que je les connaissais, il me semble, un peu déjà. Parce que moi, je crois beaucoup dans ignorer les comportements que tu n'acceptes pas et honorer les comportements que tu es d'accord.
Ouais, c'était quand même assez avant-gardiste à l'époque, hein, de penser comme ça, non?
Ah, oh, puis oui, puis j'y croyais, hein?
Ah, oh, ça, j'en doute pas. Tu dis dans ton livre, parlant de fierté, dans le Congrès mondial acadien,
oh!
Hein, en 1994, et que ça te rappelle des beaux souvenirs. Hein?
Oh, les beaux souvenirs,
alors,
les beaux souvenirs.
Tu écris « Je me vois encore, à mon retour chez moi, écouter les cérémonies de fermeture à la radio et pleurer à chaudes larmes comme une enfant.
Oh, oui.
Je ne peux pas expliquer mes sentiments, mais j'ai une sorte de nostalgie et une fierté de faire partie de ce peuple qui est encore debout, comme le dit si bien Calixte Duguay dans l'une de ses chansons. » Alors, un peuple debout, ça, c'est important pour toi.
Simon. Oui, c'est que on doit se rappeler, comme on a dit au début, je crois, j'ai quand même... j'étais au Manitoba avec mon mari pour 5 ans,
oui.
Ensuite au Québec pour plusieurs années. Lorsque je suis revenue chez moi, je me suis retrouvée.
Oui.
Je disais aux gens, je pense que je vais faire comme le pape, je vais baiser le sol. autant comme j'étais fière d'être dans mes racines, dans ma culture.
Oui.
Oh, j'avais une fierté. J'ai encore une grande fierté. D'abord, je suis pure laine acadienne, ma maman est le blanc et mon père est un Savoie.
Mm-hmm. Donc, même si tu es née en Gaspésie, tes racines sont acadiennes.
Oh, j'étais acadienne déjà.
Ah oui, hein?
Ouais. Ouais.
Et qu'est-ce qui te rend si fière d'habiter cette province? T'es fière, comment tu trouves la langue? Est-ce que tu trouves que la langue française en perd? Surtout à Bathurst, hein, c'est quand même bilingue.
Oui, c'est quand même bilingue. Et je dois avouer que je m'aperçois que toutes les personnes aux alentours, je dirais, une moins 30% des gens viennent soit d'Edmundston, de Moncton, de la Gaspésie, de Montréal, etc. Donc, ça fait un bon mélange.
Mm-hmm.
Lorsqu'on est arrivé en 73, c'était majoritairement anglais, c'était plus que même 63% anglais.
Mm-hmm.
Et à un moment donné, on s'est aperçu que c'était presque 50% de francophones et 5% anglophones.
Mm-hmm.
Mais j'ai toujours tenu à parler le français, même, je pense que j'ai donné des cheveux gris à quelques personnes aux épiceries, surtout le cher monsieur, je me plains un peu parce qu'elle ne parlait qu'anglais. Il dit, vois-tu tous mes cheveux blancs, là? Ouais.
Mais est-ce qu'il y a encore un peu cette confrontation-là entre les anglophones et les francophones, ou ça diminue?
Je dois te dire que non. À Bathurst, je ne sens pas, mais pas du tout cette confrontation-là. Ils sont très polis.
Mm-hmm.
Ils me répondent, je m'excuse, mais je ne parle pas français.
Mm-hmm.
Je leur dis, c'est bien correct. Moi, je parle anglais.
Mais tu essaies de les amener à parler français d'abord, c'est ça?
Oui, oui.
OK. Donc, tu tiens à ta langue.
On doit dire, puis je n'irai pas en détail, mais actuellement, notre premier ministre n'a pas l'air à comprendre qu'est-ce que notre langue, comment précieuse qu'elle est notre langue.
Mm-hmm.
Bon, on va lui laisser ça entre les mains.
Mais tu vas pas créer un mouvement, quelque chose pour...
Non, je n'ai plus l'énergie, mais je l'aurais peut-être fait lorsque j'avais 50 ans.
T'as plus l'énergie, Simone, t'es certaine de ça?
Surtout la pandémie. La pandémie.
Oui, oui.
Ouais.
Oui.
Oui. Parce que ma vie a changé du tout au tout.
Ah, mais
moi,
oui.
Je suis le genre de personne qui sortait quand j'ai rencontré les gens qui aimaient à rire. Mm-hmm. Parce que moi, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je dois le dire, avec plaisir.
Oui,
j'ai
hein?
toujours fait avec plaisir.
Mm-hmm. Puis ta plus grande fierté, Simone, qu'est-ce que c'est? Dans toute ta, dans toute ta vie, dans toute ta vie, dans tous tes engagements, tes réalisations et tout ça, quelle est ta plus grande fierté?
C'est certain que ce sont mes enfants.
Ah oui?
Parce que il faut se rappeler que moi, j'ai été une maman monoparentale.
Oui.
Et mes enfants ont grandi avec moi, mm-hmm. malgré que, comme je dis dans le livre, j'étais trop impliquée parfois et j'avais l'air oubliée que j'avais des beaux enfants à la maison, sauf qu'ils ont très, très bien réussi. Et ça, c'est le plus beau cadeau que la vie. Et mes petits-enfants maintenant.
Oui. Donc, oui. Pour toi, c'est la réussite, hein? C'était de réussir sa
oui,
vie, hein?
Oui,
avant
disons,
tout,
c'est
je
la
pense,
réussite,
hein?
Oui.
OK. C'est pas nécessairement une réussite professionnelle ou
non,
financière.
Non, non, parce que j'ai des enfants aimants, qui sont chaleureux,
oui.
qui aiment le rassemblement. Comment dirais-je, des fois, ils se disent, « Hey, regarde-nous aller. On est juste la famille, puis on a autant de plaisir comme s'il y avait 40 personnes avec nous. » Ouais.
Donc, tes enfants sont toujours, comment je pourrais dire, sont toujours près de toi. Tu n'as pas l'impression que qu'ils te traînent ou vous êtes au même niveau, hein, sur le plan de l'énergie.
Et comment?
Hein. Oui.
Et comment? Ma petite fille, Sarah Maud, me demande, « Toi, grand-maman, qui est ton préféré? » Je la regarde. Voyons donc, Sarah Maud, ils m'apportent tous quelque chose. Chacun d'eux.
Ben, merci, Simone. Reste avec nous.
Oui, avec plaisir.
Ouais, nous allons revenir dans quelques instants.
OK.
Vous écoutez Terre de femmes avec Marthe Saint-Laurent.
Vous pouvez écouter nos émissions sur le site de Canalem sur vusetvoix.com et en balado. Nous écoutons Calixte Duguay, Les Aboiteaux. Restez avec nous.
Hier, je suis allé en rêvant d'Isabeau, voir le foin pousser sur la digue. Ce coin de pays était si beau, mais il tombe en lambeaux. Et ses habitants, depuis longtemps, n'en peuvent plus de fatigue. Mais les aboiteaux attendent quelque part que le pays d'alentour s'éveille avant de venir nous parler de départ pour d'autres merveilles. Jean Leblanc m'a dit qu'un jour aux Aboiteaux, la mer s'en viendrait par la digue, rassembler les membres du troupeau, parti sur les bateaux, que les déportés viendraient fêter et qu'on danserait la gigue.
les avoitons attendent quelque part que le pays d'alentour s'éveille avant de venir nous parler de départ pour d'autres merveilles. Revienne la mer un jour aux aboiteaux, forcer les clapets de la digue, qu'elle nous apporte pour bientôt ce qu'elle a de plus beau. Je crains cependant que Jean Leblanc soit celle pour danser sa gigue. Et les aboiteaux sont toujours quelque part, attendant que le pays s'éveille. Viendront-ils un jour nous parler de départ pour d'autres merveilles, pour d'autres merveilles.
Quelle belle chanson. Et c'est un voyage que Simone Savoie nous permet de faire en période de pandémie. Nous nous transportons au Nouveau-Brunswick. Donc, Simone Savoie, avant-gardiste et déterminée, cette femme d'inspiration. Simone, tu es aussi une femme féministe.
Eh oui.
À l'âge de ça a commencé à l'âge de 39 ans. Après 15 années de mariage, tu quittes ton mari. Faut se ramener à l'époque, on était en 78 au Nouveau-Brunswick.
Oui.
Donc, tu pars, tu laisses tes enfants à ton mari et tu t'en vas. Et contre toute l'amour, malgré l'amour que tu as pour ces enfants-là, tu sais que c'est mieux. Et tu penses à leur bien-être et tu t'en vas. Et là, tu as été jugée sévèrement, en plus de
et
la
comment?
Douleur.
Oui.
Alors, tu as dû démissionner, d'ailleurs, de l'organisme régional de foyer-école parce que tu n'étais plus une bonne mère.
Oui. Donc, d'après la religion catholique, je n'étais plus une bonne mère et non.
Mm-hmm. Donc, tu t'es retrouvée dans un appartement. Tu veux nous raconter ça? Tu es partie avec des effets et puis...
Oh, c'était très difficile, très, très, très difficile. D'ailleurs, je pouvais voir mes enfants lorsque je voulais. C'était une entente que j'appréciais beaucoup. Mais lorsqu'ils venaient me voir le dimanche, et puis on faisait des activités ensemble, et lorsque j'allais les reconduire à la maison à 9 heures le soir, la tristesse à mon cœur, à mon âme, à mon être... Je pense que c'est une première fois que j'en parle. Là. Je retournais dans cet appartement vide. Mm-hmm. C'était pénible, mais je me disais, ça va me payer un jour. J'essayais toujours de voir le bon côté de tous ces malheurs-là.
Mm-hmm.
Mais mes enfants, ils étaient fins parce qu'ils venaient... Oh non, ce qui arrivait, ils venaient pour la fin de semaine parce que j'avais deux chambres. Puis ensuite, j'allais les conduire, c'est ça.
Mm-hmm.
Là, à un moment donné, je n'avais moins. Là, il y avait Chantal qui a été fidèle, mais c'était une personne assez... qui était beaucoup à la maison,
mm-hmm.
disons. Donc, elle avait décidé qu'elle prendrait soin de maman.
Oui.
Ouais.
Tu avais laissé, en fait, les enfants avec ton mari parce qu'il ne voulait pas quitter la maison familiale, c'est ça?
Je peux le comprendre aussi. Parce que je pense que j'avais un frère, j'ai un frère, puis j'en parle, qui était féministe
mm-hmm.
également. Et lorsqu'ils se sont rencontrés, je le raconte dans mon livre,
mm-hmm.
oui, c'est qu'ils se sont parlé, eux, ensemble, puis on dit, pourquoi notre qualité de vie ne serait pas aussi bien que la leur?
Mm-hmm.
Donc, lorsqu'il est revenu de voyage, ça a été comme je pense que j'ai dit, c'est une claque d'en face, comme on dit à Rogersville. Me faire dire que ça... que c'est que ça, là, vous autres, votre qualité de vie est aussi bonne que la mienne? Et je me suis dit, Ouais. Si je veux survivre, je dois accepter, si je décide de m'en aller, de laisser les enfants avec leur père. Et au fond, c'était bon parce qu'ils restaient dans leur milieu, ouais, avec leurs amis, avec leur entourage.
Et là, tu as rencontré une femme qui a été déterminante dans ton engagement féministe.
Et comment? C'est-à-dire que je la connaissais déjà. C'était ma patronne.
OK.
Je pense que je vais dire son nom parce que ça vaut la peine, ou je l'ai peut-être déjà dit, Céline Roy. Très féministe. Et à chaque fois qu'elle racontait quelque chose qui m'aidait à voir que j'étais une féministe, oh, ça m'entrait dedans. Puis je disais, oui, oui, c'est ça. C'est en plein ça. Faut qu'on soit respecté. Mais au début, les hommes me taquinaient.
Oui.
Et moi, j'embarquais. Hey. Je les regardais, on leur dit, vous autres, mes machistes. Non, pardon. Mes machistes, oui. Mes machistes. Non, c'est pas ça non plus. Attendez.
Les hommes. Des machistes qui ont quelque chose contre les femmes.
Oui, c'est ça.
Oui, oui.
Et après 10-15 ans, je disais comme eux. Tu as absolument raison, tu as raison.
Mm-hmm.
Mais moi, je sais qu'en étant féministe, m'a appris à me respecter comme femme, à me sentir en égalité avec les hommes et que je sois respectée. Puis, j'ai vécu des petites anecdotes assez mignonnes. Un jour, j'avais de la visite à la maison, puis il y avait des hommes, et l'homme, ils ont décidé de venir laver la vaisselle, mais ça fait longtemps, là. Et puis, ils m'ont regardé, puis ils ont dit, ah, oh, qu'on a de la misère à accepter, hein, qu'on nous autres aussi, là, décollé de notre piédestal, parce qu'ils étaient pas mal sur le piédestal, n'est-ce pas?
Oui.
Et alors que ça nous sent, on ne se sent pas coupable d'aller travailler.
Mm-hmm.
Parce qu'on a autour de nous, c'est pour ça que les garderies, je trouve que c'était très bien pour les parents qui travaillaient.
Ah oui.
Qui travaillent.
Donc, il y avait quand même derrière tout ton amour pour les enfants, il y avait aussi cette volonté-là de libérer, hein, quelque part, les femmes.
Oh oui, parce que j'ai, comme on dit dans le livre, j'ai eu un appel de la ministre de la petite enfance, je crois, et qui me disait que le premier ministre avait décidé qu'il me choisissait pour remplacer quelqu'un sur je siégeais sur le conseil consultatif de la condition de la femme qui est par après qui a disparu à cause d'un autre premier ministre.
Mm-hmm.
Et puis, j'étais très fière. Et puis, je m'étais donné comme mandat.
Oui.
Peut-être que je n'avais pas tellement besoin de le faire, mais je l'ai fait. Et je me suis impliquée dans tous les organismes pour les femmes.
Mm-hmm.
Tous les organismes.
Il ne devait pas en avoir beaucoup à l'époque, en 78, au Nouveau-Brunswick.
Des organismes pour les femmes?
Oui, ben en fait, des féministes, des femmes qui s'impliquaient.
Oh, des féministes? Non, oui. Non. Même la ministre, une de mes ministres que je connaissais, ne se considérait pas féministe parce qu'elle ne savait pas, au fond, qu'est-ce que ça voulait dire.
Oui, comment tu le définis, toi, Simone, le féminisme? Qu'est-ce que c'est pour toi?
Moi, le féminisme, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est...
L'égalité?
Oui. Et l'équité, l'égalité, mais parce que j'ai travaillé beaucoup avec l'équité salariale, c'est surtout l'équité de reconnaître le travail de la femme est aussi important que celui de l'homme.
Mm-hmm.
Et ce qui nous fait plaisir, nous les femmes de mon âge, quand on voit des personnes que la femme fait plus de salaire que le mari, puis le mari est à l'aise avec ça. Je dois dire que j'ai parlé avec ma petite fille, j'ai dit, vous autres, le féministe, là, aujourd'hui, là,
mm-hmm.
Est-ce que vous avez oublié ça ou que vous... Oh oui, elle dit, ben là, j'ai dit, c'est vrai que tu viens d'une grand-maman, puis d'une maman féministe.
Oui.
Je peux voir ton discours, parce qu'elle dit, nous, grand-maman, ce qui a été fait par vous, nous, on continue, mais on va d'une autre manière. Nous, c'est l'environnement qui est important, c'est puis on jouir de notre travail à l'égalité des hommes, puis d'être respecté par eux.
Mm-hmm. As-tu l'impression qu'ils le vivent, qu'ils sont féministes, mais comme par nature, mais c'est plus comme à ton époque où il fallait se battre, où il y avait quelque chose. Là, maintenant, c'est comme intégré, donc le féminisme comme tel n'est plus une... Comment je peux dire? C'est plus quelque chose d'intégré.
Oh oui! On comparait à nous.
Oui.
À chaque porte, nous, il fallait foncer.
Oui.
Ouais.
Et là, les portes sont ouvertes, donc elles, pour elles, oui. C'est naturel, peut-être.
Je dois dire qu'elles ne sont pas tous comme, toutes comme ma petite fille, par contre.
Mm-hmm. Est-ce que tu penses que... Oui, vas-y.
J'ai déjà entendu quelqu'un dire, « Oh, moi, ça me dit rien. » Un autre me dire, « On n'a pas besoin.
Mm-hmm. »«
Ah oui? » J'ai dit, « C'est parce qu'on était là avant vous.
» Hey, tu continues à militer.
Aïe, 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 c'est pour ce qu'on s'est débattu, nous, là, pour vous, là.
Oui, 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 tellement que tu as fait la marche mondiale des femmes à New York en 2000, hein?
Oui.
Est-ce que tu crois, Simone, que il y a plus de femmes engagées ou, comme tu disais tantôt, il y a quand même des femmes aussi qui s'en préoccupent pas ou pour elles, c'est pas important? Au niveau de la quantité, est-ce que tu penses que c'est autant ou y a-t-il encore du travail à faire dans ce sens-là?
Oui, encore du travail à faire.
Il ne faut pas baisser la garde.
Oui, comme au Nouveau-Brunswick, puis je ne veux quand même pas les juger. Mais lorsque elles se marient puis prennent le nom de leur mari, pour moi encore, ça vient...
OK, encore au Nouveau-Brunswick?
Oui. Oui, mais ça, c'est côté anglais. Les anglophones prennent toujours le nom de leur mari.
Mm-hmm. Et qu'est-ce que tu penses de ça, toi?
Moi, pour moi, tu perds ton identité. Là, oui. Ça, c'est Simone qui parle. Là.
Oui, oui, oui. c'est l'opinion de Simone qu'on va avoir aussi. Oui, effectivement, les femmes perdent leur identité.
Oui, ouais. 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 Pour moi, tu perds ton identité. Parce que moi, je me rappelle, lorsque je suis revenue à Savoie, on aurait dit que mon énergie avait changé.
Ah, carrément, hein?
Oui.
Et tu me disais tantôt que tu as été sur le comité fondateur de l'Association des féministes du Nouveau-Brunswick.
Oui, oui, oui. J'ai été chanceuse. C'est parce que c'était le temps que le conseil consultatif sur la condition de la femme était aboli. Donc, on s'est réunis, toutes les féministes, puis c'était à Bathurst d'ailleurs, de Fredericton, de Moncton, de Le Carmelton, de Lynston et tout. On s'est réunis, puis c'était la réunion fondatrice de cette... Et je m'excuse, je ne peux pas dire que... Je sais que c'est le nom féministe, les féministes du Nouveau-Brunswick, quelque chose comme ça.
Mm-hmm. Et tu as été combien de temps sur le comité?
Plusieurs années, mais à un moment donné, j'aimais mieux débattre avec ce que c'est qui se passait dans ma région.
Ah oh oui, OK, d'accord. En province.
Ouais.
Et reste avec nous, Simone. Nous allons écouter Saratoga, Beauté, Beauté, et on revient tout de suite après.
Pendant que vos bras tropicaux ramassent les jours aigris qui traînaient sous mon manteau, s'amoncelle l'hiver. Vous êtes de retour, bel oiseau. J'ai déblayé le nid planté de gentils végétaux. Je ne date plus. Bonté qu'il fait bon de réveiller les beaux bons jours, vous repas.
avec l'auteur du livre Simone, l'Acadienne aux mille passions. Simone Savoie, notre entretien extraordinaire nous mène forcément à la femme engagée que tu es. Et j'aimerais simplement citer, avant de commencer, les différentes organismes auxquels tu as été impliquée. Donc, tu faisais partie des membres fondateurs de la Maison d'hébergement pour femmes et la violence, l'organisme Grand Frère et Grande Sœur, le Congrès du Parti acadien, l'Association provinciale des garderies du Nouveau-Brunswick et tu as été présidente, le Comité de l'alphabétisation régionale, tu as été représentante dans ta région du conseil consultatif, comme on a parlé un peu plus tôt, sur la condition féminine. Tu as été nommée par le premier ministre, comme tu disais, Frank McKenna, en 1997, membre de l'Association sur l'équité salariale pour la province du Nouveau-Brunswick. Tu as organisé les Journées de la femme pendant plusieurs années avec zéro budget, et ça, tu tiens à le mentionner parce que c'est tout un défi. Tu as été membre du programme alphabétisation de la petite enfance organisé par la lieutenant-gouverneure du Nouveau-Brunswick, membre du Centre familial Chaleur du spectre de l'autisme, et tu es retraité un peu depuis 2010. Alors, c'est une belle feuille de route, ça, pour quelqu'un qui trouve qu'il n'a pas fait grand-chose.
Oui.
Es-tu encore membre d'association, Simone?
Oui. Avec le centre d'autistes, là. Mm-hmm. Parce que, faut dire un peu, c'est parce que ma fille fait partie, est la présidente.
Oui.
Donc, elle est très impliquée, donc j'amène mon petit peu d'expérience. Et je voulais ajouter aussi que j'ai oublié de dire. J'ai organisé, mais avec de l'aide, la journée de deuil pour, du 6 décembre pour 6 ans, pour organiser la marche en mémoire des 14 jeunes filles qui ont été abattues à la Polytechnique de Montréal.
Oui. D'accord. Ouais. Donc, tu t'es impliquée aussi là-dedans.
Oui.
Ah, oh, superbe, superbe. Et c'est intéressant parce que dans ton livre, quand tu parles des hommes, tu dis « J'ai toujours eu peur de l'engagement amoureux », mais on ne peut pas dire que tu as peur de l'engagement social, hein, par exemple.
Non.
Et comment c'est quoi la différence pour toi d'un engagement social, d'un engagement amoureux?
C'est que l'engagement social, j'y vais avec les bras ouverts. Mais lorsque ça vient à les engagements amoureux, j'ai peur du rejet.
OK.
J'ai peur de le quotidien avec la personne. Il faudrait qu'elle soit drôlement respectueuse et me sent liberté. Moi, j'ai besoin de ma liberté.
OK.
Donc, c'est peut-être là le peur de l'engagement amoureux parce que peut-être que je parle pour moi, là.
Mm-hmm. Oui, bien sûr.
Moi, toujours.
Oui.
Parce que je sais que autour de moi, j'ai des couples très heureux.
Oui.
Mais moi, par le fait que j'ai perdu ma mère, que j'ai eu une première grosse peine d'amour lorsque j'avais 18 ans, puis la deuxième mère avait décidé que c'était pas un bon monsieur pour moi. Donc, c'était une autre blessure. Et une après l'autre, bien, à ce moment-là, tu te protèges.
Mm-hmm. Et ouais. Tu disais, j'ai la foi, mais je ne vais pas à l'église. Donc, ça, c'est un engagement aussi.
Oui.
qu'est-ce qu'il y a contre l'église?
Parce que c'est... Oh, je voudrais... Je m'excuse auprès de l'Église catholique, mais on nous a tellement enracinés. On dirait qu'ils ont presque avec un clou et un marteau pour nous mettre dans notre tête des choses qu'on ne comprenait pas.
Mm-hmm.
Comme s'incliner devant le crucifix. Maintenant, je sais, c'est qu'on admire le Dieu en cette personne, mm-hmm. c'est Namasté. Je respecte le Dieu en toi. Et ça, j'ai la foi. Beaucoup, beaucoup. Je me considérerais assez spirituelle.
Oui.
Donc, la religion catholique ne répond pas à mes besoins de ce côté-là.
Mm-hmm.
Puis, je me suis aperçue que j'étais drôlement plus heureuse en écoutant mon intérieur, aller chercher des gens spirituels comme moi.
Mm-hmm.
Puis, j'ai beaucoup travaillé de ce côté-là.
Oui.
Oui.
Et où est-ce que tu prenais le temps, quand tes enfants étaient plus jeunes, d'être aussi impliqués? Il devait te manquer des heures dans une journée?
Oui, tu as raison. C'est là que, comme je l'ai dit dans mon livre, j'exagérais.
Oui.
J'exagérais.
Et tu faisais pas la part des choses à l'époque. Tu y allais quand
non.
même parce que Simone est à
non.
fond, hein?
Comment,
Simone, elle est à fond, tu sais. Oui.
Lorsque je m'engageais dans quelque chose, ben ôtez-vous du chemin.
Oui. Et là, tu te sentais pas perdre ta liberté?
Non, c'est ça.
Parce que c'était ton choix, peut-être?
Oui. Oui, mais inconsciemment, parce que c'est peut-être à cause du reflet que j'ai reçu par après de mes enfants. Dans ce temps-là, je le réalisais pas, mm-hmm. mais pas du tout. J'avais tellement besoin d'aller dire mon mot.
Oui.
Puis les premières réunions, c'était avec des hommes. Puis on aurait dit que j'avais besoin d'aller voir comment ils raisonnaient, comment ils faisaient ça, une réunion, eux. Puis je me suis dit, ouais, ils ne prennent... comment dirais-je, il n'allait pas dans les détails. Il, comme on dit par chez nous, il niaisait pas avec le poc.
Oui.
il allait direct au but. Puis ça m'a beaucoup aidé quand j'ai animé énormément de réunions. Je comprenais que tu restais sur le sujet et
ouais.
tu allais... Ouais.
Et dis-moi, comment tu vis la pandémie, toi qui es aussi... social, comment
ça a changé ma vie de jour au lendemain.
Et comment tu fais pour garder le cap?
Dans la période orange, c'est-à-dire jaune, nous, on a été chanceux. On a eu une longue période jaune, ça allait bien. Je pouvais aller visiter mes enfants, j'avais mes amis et tout. Et maintenant qu'on est retourné dans l'orange, je trouve ça assez difficile, merci. Même que je disais aux gens, c'est comme la chanson de Lisa Leblanc.
Oui.
J'espère que demain, ça sera...
Ça ira mieux.
Ça ira mieux, mais aujourd'hui, oui. c'est de la merde. Elle l'a dit. Puis même Stéphane Bureau, je l'ai vu une journée à la télévision qu'il a chanté lui également. Je pense que ça faisait du bien à tous les gens.
Oui. Mais comment tu fais pour garder le contact? Je pense que tu as un iPad et tu es toujours...
Oui, par exemple.
Puis tu continues à avoir des enfants aussi autour?
Non. Juste Chantal, une famille, parce que moi, parce que je suis seule, j'ai le droit d'avoir une famille.
OK.
Donc, je peux pas voir mon fils, mes petits-enfants, autre que la famille de Chantal.
Dis-moi, en terminant, Simone, quelle est la cause que tu as embrassée, qui te passionne le plus, qui t'a passionnée?
Dans ma vie?
Oui.
La cause? Oh, ça a été pour les femmes?
Oui.
Et les enfants.
D'accord.
Oui.
Bien, je te remercie infiniment, Simone. C'était un plaisir et un bonheur de te recevoir et je sais que ça va inspirer plein de femmes de ton beau parcours et ta belle énergie à 82 ans.
Hey, le plaisir a été pour moi, Marc. Parce que je t'aime beaucoup.
Et c'est réciproque, Simone. Je vous invite à lire Simone, l'Acadienne aux mille passions, publiée aux éditions de la Francophonie. Un immense merci à mon invitée, une femme d'inspiration, Simone Savoie, avant-gardiste et déterminée. Merci à l'équipe sans qui cette émission ne serait pas possible, à Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier à la mise en onde et Louis Garon, chef d'antenne à Canal M. Un merci tout particulier à vous qui nous écoutez. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous partage cette citation d'Indira Gandhi. Un jour, mon grand-père m'a dit qu'il y avait deux types de personnes, celles qui font le travail et celles qui s'en attribuent le mérite. Il m'a conseillé de faire partie du premier groupe parce qu'il y avait moins de concurrence. Ici Marthe Saint-Laurent qui vous dit à la semaine prochaine.